Bonjour à tous. Pour ce message, je vous propose de prendre dans 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera à tel endroit. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement une fois ou deux fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit: allez-vous enfin me dire lequel de vous est partisan du roi d'Israël ? L'un de ses serviteurs répondit: personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit: allez, repérez où il est et je le ferai capturer. On vint lui dire: il est à Dothan. Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu: « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit: « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria: « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars en feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel: veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Élisée leur dit: ce n'est pas le bon chemin et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut rentré dans Samarie, Élisée dit: Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. Alors vu le roi d'Israël dit à Élisée: faut-il les tuer, mon père? Élisée répondit: tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée et ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils repartent ensuite vers leur seigneur. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils repartirent vers leur maître. Les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Alors voilà un texte, peut-être qu'on a vaguement entendu un jour. Moi je me rappelais vaguement l'histoire de soldats au-dessus de la montagne qu'Élisée voyait, mais je ne savais même plus s'ils avaient attaqué ou pas attaqué, ce qui s'était passé. Et en fait, c'est mon frère qui était à Colmar la semaine dernière qui a dit: ah, ils ont prêché sur ces textes, je ne connaissais pas. Donc, par curiosité, j'ai été voir. Et je trouve que ça fait écho avec notre actualité d'une manière un peu peut-être différente. Alors peut-être pour reprendre un peu le texte, parce qu'à la première lecture, on ne voit pas tout, je vais reprendre un peu les différentes étapes. Donc il y a une première étape. Donc déjà, c'est la guerre entre la Syrie et Israël. Alors première étape, il y a le roi de Syrie qui est en marche vers Israël. Alors je ne sais pas comment ça se passe, les deux armées doivent se déplacer, se rencontrer, s'attaquer, enfin voilà. Et en fait, à chaque fois que le roi dit « ah ben on va se mettre là », peut-être pour une embuscade ou autre chose, ben, à chaque fois, il y a Élisée qui l'apprend. Donc Dieu le souffle à Élisée et qui dit: attention, passez pas par là, il y a la Syrie. Et c'est marqué, ça arrive pas une fois ou deux fois, ça arrive plein de fois. Donc une fois, on se dit, c'est une coïncidence. Voilà. Deux fois, ah, c'est bizarre. Et puis au bout de quelques fois, il s'est dit, le roi de Syrie, ah ben il y a un espion. Et en fait, ses conseillers lui disent, non, il n'y a pas d'espion. Tu sais, ils ont quelqu'un, l'homme de Dieu, qui l'appelle, qui sait ce qui va se passer, qui entend même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Et donc, le roi Thierry comprend ça, il se dit, bah, tiens, je vais aller arrêter cet homme. Il envoie des espions et il repère où il est. Donc, il est dans une certaine ville qui s'appelle Dothan. Donc, le roi Thierry envoie toute son armée pour capturer Élisée. Donc, avec l'armée, ils entourent toute la ville. Donc, il y a vraiment des soldats partout. Et là, il y a le serviteur d'Élisée qui sort et qui se retrouve face à une armée. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, oh là là, qu'allons-nous faire ? Et Élisée lui dit, n'aie pas peur. Et demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Le serviteur regarde et tout autour, il y a l'armée de Dieu, avec des chars, qui encerclent, qui les protègent. À ce moment-là, moi, je me dis, l'armée de Dieu va attaquer. Eh bien, non. Ou même, je me dis, il va ouvrir les yeux des soldats syriens pour voir l'armée et puis ils vont avoir peur et fuir. Eh bien, non plus. Ce n'est pas le moyen qu'a choisi Dieu. Et Élisée, qui a confiance en l'Éternel, dit, Éternel aveugle cette armée. Et donc, Élisée lui-même va les voir, alors que c'est Élisée qui va le choper, donc ils ne le reconnaissent pas. Et Élisée les conduit en disant, non, mais là, vous vous êtes trompé de route, venez, je vous amène au bon endroit. Et les amène dans la ville de Samarie. Et dans la ville de Samarie, tout d'un coup, ils perdent cet aveuglement et ils remarquent, oh là, on est entouré de toute l'armée d'Israël. Donc là, ils se sont dit, ça y est, on est mort, on est foutu. L'armée d'Israël a dû se dire, on peut gagner le combat facilement. Ils sont livrés à notre portée. Et là, le roi d'Israël demande, je peux les tuer là, voilà. Et Élisée lui dit non, donne-leur à manger, donne-leur à boire. Et le roi d'Israël fait un grand repas pour ses amis. Ils mangent. Puis ils repartent chez eux et ils arrêtent la guerre pendant de nombreuses années. Alors ceux qui lisent disent, mais le verset suivant, il y a une autre guerre, mais c'est plus le même roi. Mais effectivement, pendant plusieurs années, donc on ne sait pas combien d'années s'écoulent entre les versets qui suivent, mais pendant plusieurs années, il y a eu la paix. Alors quel est le bilan de cette guerre ? Il y a eu une victoire. Israël a gagné. Il y a eu la paix sur plusieurs années. Il n'y a aucun mort, aucune victime civile ou militaire. Il y a un ennemi qui n'est pas humilié, ce qui peut limiter le risque de vengeance aussi. Tout le mérite revient à Dieu, puisque l'armée n'a rien fait. Donc ça limite aussi l'orgueil du roi, peut-être la tentation de se dire « Ah, j'ai accompli une belle victoire, tiens, je vais en profiter pour en attaquer d'autres. » Si on se met à la place des différents intervenants de ce texte, tout d'abord le roi de Syrie. Le roi de Syrie, c'est quelqu'un qui est habitué à la guerre. Cette époque, les rois sont des vrais rois guerriers. Je pense qu'Israël, ce n'est pas le premier peuple qu'ils ont attaqué. Il n'a pas peur des armées. Il n'a pas peur des combats. Par contre, il est déboussolé par quelque chose qu'il ne comprend pas. Alors d'abord, par le fait qu'on devine ses plans à chaque fois. D'abord, il se dit, c'est un espion. Trésias, c'est un prophète. Mais peut-être qu'il voyait le prophète, comme certains disaient, oui, on a des magiciens, on a des devins, des choses comme ça. Donc il se dit, je vais choper cette personne. Et à la fin, il finit par comprendre qu'en fait, non, c'est bien plus que ça. C'est une force qu'il dépasse. Alors, il n'a pas dit, je reconnais qu'Israël est guidé par l'Éternel, comme certains autres ont pu le dire. Mais n'empêche qu'il a compris que, ça, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Il n'a pas combattre des hommes. Il a à combattre Dieu. Et la petite chose en plus, c'est le repas qu'il reçoit à la fin. Il s'attendait à mourir. Moi, je peux ou à ce qu'une partie de son armée soit trucidée, ou à ce qu'on prenne des esclaves ou autre. C'est ce qui se faisait à l'époque. Mais le fait qu'on lui offre un repas, ça le déstabilise. Et s'il est reparti dans son pays, et s'il n'a pas réattaqué, c'est peut-être parce qu'il a reconnu, il a été reconnaissant du bien qu'on lui a fait, peut-être. Et sans doute parce qu'il a remarqué que Israël, c'est pas un peuple comme les autres. Et que quand il combat Israël, c'est l'Éternel qu'il combat. Autre personne, le roi d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans ce texte, roi d'Israël ? Eh bien, pas grand-chose à part la cuisine. Enfin, à part dire à ces gens de faire la cuisine. Dans ce passage, on ne sait même pas son nom. Alors, je pense que si on cherche dans les chapitres avant, après, on peut retrouver qui c'est. Mais voilà, c'est le roi d'Israël. A priori, c'est censé être quelqu'un d'important, mais dans ce passage, il n'est pas si important que ça. Ce qu'il fait, avant tout, il prend conseil. Il prend conseil auprès du prophète. Et plus important que de prendre conseil, c'est qu'il écoute les conseils. Ce qu'il aurait pu dire, oui, c'est bien beau de me dire de nourrir mes ennemis, mais bon, moi je suis un homme de guerre, je sais quoi faire. Non, non, il écoute les conseils. Il ne cherche pas une victoire militaire à tout prix, ou une vengeance. Il accepte d'éviter la bataille. Donc au début, quand à chaque fois il devinait où était le camp de Syrie, ben, il aurait pu se dire, ben, genre, je fais une embuscade. Non, il évite la bataille. Et à la fin, il nourrit ses ennemis. Il fait confiance à Dieu pour vaincre. Il ne compte pas sur ses propres forces. Autre personnage, le serviteur d'Élisée. Alors, serviteur d'Élisée, serviteur d'un prophète, bah, il connaissait probablement l'Éternel. En plus, il avait sans doute vu déjà des miracles. Il y en a plusieurs relatés quelques chapitres auparavant. Donc voilà, c'est quelqu'un qui sait que Dieu peut faire des merveilles et puis que via Élisée, il a déjà fait des choses merveilleuses. Et pourtant, lorsqu'il voit l'armée syrienne, il a peur. Et il doute. Il est un peu comme nous, ce serviteur. Nous avons appris, nous avons lu, nous avons chanté, nous avons entendu que Dieu est tout-puissant, qu'il est capable de faire des choses merveilleuses, qu'il apporte la victoire. Par la foi, nous triomphons, par la foi, voilà. Nous l'avons probablement expérimenté. Il y a sans doute des moments dans notre vie où nous dites, ouais, Dieu là, il a fait de grandes choses. Et pourtant, quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, et en ce moment peut-être plus particulièrement encore, nous sommes perdus. Nous avons peur. Nous demandons, que ferons-nous comme ce serviteur ? Élisée a ouvert les yeux du serviteur pour qu'il voie. Pour qu'il voie qu'il n'est pas seul, qu'ils ne sont pas seuls. Élisée et le serviteur ne sont pas seuls. Dieu est à leur côté. Toute l'armée de Dieu les entourait. Et pour nous, nous avons besoin aussi d'ouvrir nos yeux, que Dieu ouvre nos yeux, pour que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas seuls. Dieu est à nos côtés. Il nous entoure, par devant, par derrière, tout autour de nous, il est là. Son esprit est en nous. Nos frères et sœurs sont là. Rien que, sans compter l'armée des cieux, si on comptait déjà rien que les frères et sœurs chrétiens de par le monde, ça fait quelques millions de personnes. Mais même, c'est au-delà de ça. N'ayons pas peur, car ceux qui nous entourent sont plus nombreux que ceux qui nous veulent du mal. N'ayons pas peur, car Dieu est plus grand, plus puissant que toutes les forces du monde. Et c'est vrai qu'on peut se dire, ben, il y avait une telle armée, il y avait l'armée des cieux à côté, ben, pourquoi Dieu ne l'a pas utilisé ? Pourquoi il ne l'a pas utilisé pour attaquer les Syriens ? Non, il l'a juste utilisé dans ce chapitre, alors tu dis c'est un truc super merveilleux, il l'a juste utilisé pour rassurer le serviteur, pour lui dire, regarde, tu n'es pas seul, quelque chose de beaucoup plus grand que cette armée, que tout ce qui t'entoure, que tout le malheur qui t'entoure, quelque chose de plus, beaucoup plus grand est autour de toi. Alors le dernier personnage, plutôt l'avant-dernier, Élisée. Alors Élisée, lui, il connaît bien Dieu et sa puissance. Il connaît la volonté de Dieu. Et il voit au-delà. Au-delà de l'armée. Lui, il voyait dès sa présence cette armée céleste qui l'entourait. Il voit au-delà. Et malgré tout ce qu'il a pu faire dans le passé, il a déjà fait des miracles, des choses comme ça. Il ne se confie pas dans sa force à lui, mais dans celle de l'Éternel. Ce n'est pas un magicien, mais un serviteur de l'Éternel. Et il choisit, face à ce conflit, de résister par des moyens non violents. Autant que possible, il évite le conflit, en disant « bah tiens, ils sont là, bon, on va aller ailleurs ». Voilà, on ne cherche pas la confrontation. Il induit en erreur ses adversaires et il nourrit son ennemi. Peut-être qu'il avait compris des choses déjà, alors qu'on est quelques milliers d'années avant, que Jésus enseigna plus tard. Et je vous invite à lire Matthieu 5 à partir du verset 38. Matthieu 5 à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il avait dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. À première vue, c'est pas très Ancien Testament tout ça. Et pourtant, c'est des choses qu'on peut déjà retrouver. Donne à manger à ton ennemi, c'est dans l'Ancien Testament. Et le dernier intervenant, alors c'est celui qui domine tout, c'est l'Éternel. C'est le seul réel acteur de ce combat. C'est le seul qui a vraiment agi. Et on parle de guerre sainte en ce moment, on entend beaucoup de choses. Mais la vraie guerre sainte, c'est celle où on laisse Dieu gérer en lui faisant confiance. Je reviendrai plus tard sur ce qui est dit sur la guerre sainte enfin voilà quelques éléments à ce propos, plutôt sur le rôle de l'Éternel, mais voilà, vous aurez compris que ce texte fait écho à l'actualité et je pense qu'il y a des choses qu'on doit quand même dire et on est appelé en tant qu'Église à dénoncer le mal. Donc parfois on entend des propos modéré. On entend des propos. Ah ben, faut aller, moi je suis pour un tel, moi je suis pour un tel, moi je suis. Donc je pense que c'est important de rappeler certaines choses. Ce que le Hamas a fait le 7 octobre en Israël, c'est le mal à l'état pur. Ce que Israël fait en se vengeant actuellement, sans même chercher à faire semblant de viser des cibles militaires ou même à respecter le œil pour œil, dent pour dent, qui mettait une vie pour une vie. Là, on n'est plus dans ça. Ce que Israël fait en ce moment, c'est le mal à l'état pur. Et je pense qu'il faut qu'on puisse dénoncer ça. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Dire qu'une guerre est sainte, que l'on fait une guerre sainte, une guerre militaire sainte au nom de l'Éternel, c'est un blasphème. Si la guerre sainte, ce n'est pas ça. La guerre sainte, c'est la guerre que l'Éternel mène. C'est pas la guerre que les hommes mènent avec des armes, soi-disant pour une religion, une tradition. Vouloir accomplir les prophéties d'Ésaïe, comme ça a été dit, c'est d'un orgueil infini, puisque celui qui accomplit les prophéties, c'est Dieu. Nous ne sommes pas là pour les accomplir à leur place. Donc là, je cite Netanyahou, vous aurez compris, mais d'autres l'ont fait dans le passé, et des chrétiens aussi, hein, en disant, voilà, nous sommes les guerres saintes, c'est pas seulement musulmans ou juifs, ou les chrétiens ont aussi fait beaucoup de mal par rapport à ça, et parfois trouvent ces arguments. Donc c'est important de se le rappeler. Qu'est-ce qu'une vraie guerre sainte? Tout d'abord, et puis là je m'inspire, voilà, je ferai la pub, du petit dossier de Chris Seul, qui, quand Dieu combat, guerre et paix dans l'Ancien Testament, alors c'est de 2007 déjà, mais qui permet de comprendre un peu, voilà, parce qu'on. Ouais, c'est le Dieu des armées dans l'Ancien Testament, et c'est le prince de paix dans le Nouveau Testament. Comment on fait avec tout ça? Non, c'est bien plus complexe que ça. Et la manière dont on lit l'Ancien Testament aussi peut nous aider à comprendre quand le plan de Dieu, c'est pas la guerre. La première guerre qui a été faite pour le peuple d'Israël, c'est la sortie d'Égypte. Et il n'y a personne qui a combattu, à part Dieu. Les Israélites n'avaient pas d'armes. David contre Goliath, c'est un caillou contre une armée. Gédéon, c'est pas les 30 000 hommes du début, c'est réduit à 300, puisque c'est Dieu qui combat. Et après, oui, il y a quand même eu des guerres, il y a quand même eu des abus. Je ne retrouve plus, mais un des textes qui a été lu ce matin pouvait nous éclairer là-dessus, mais comme ça, je ne vais pas retrouver. Et c'est surtout à partir du moment où Israël a dit « Oh, je ne peux plus être gouverné par l'Éternel, je veux un roi », que là, Israël a commencé à avoir une armée de métier et que ça a dérivé. Et à la fin, pendant le temps de l'exil, ce qui était demandé au peuple d'Israël, c'était de travailler dans le pays où ils étaient en exil, de rechercher le bien de ce pays. Voilà. Donc, suivant la lecture que l'on a, on n'arrive pas forcément aux conclusions que l'on entend parfois dans les médias en disant « bah si, Dieu est un Dieu qui voulait que la guerre ». Non, ce n'est sans doute pas ça. D'abord, il y a un cri de guerre de Dieu qu'on retrouve presque dans tous les combats. Et on l'a même lu ce matin. Alors tu ne te rappelles pas d'avoir lu un cri de guerre, hein. Ne craignez pas, je suis avec vous. C'est dit ici, c'est dit dans presque tous les combats d'une manière ou d'une autre. N'aie pas peur. Ne crains pas, je suis avec toi. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Et la confiance en ma fidélité sera votre paix. Le mot d'ordre pendant les guerres pour Dieu, tu donnes à tes disciples, c'est ne crains pas. Fais confiance, laisse-moi agir. Nous pouvons dépendre de Dieu pour nous pouvons dépendre de Dieu pour nous délivrer de nos ennemis. Nous n'avons pas à combattre nous-mêmes. La puissance de Dieu est assez grande. Qui contrôle le monde ? Est-ce que ce sont les armées, les hommes politiques, l'économie ? Si nous croyons ça, est-ce que nous ne minimisons pas Dieu ? Si nous croyons que Dieu est le maître de l'univers, nous croyons que c'est lui qui contrôle le monde. Et donc nous pouvons nous appuyer uniquement sur lui pour nous délivrer de nos ennemis, par les moyens qu'il aura choisis. Nous pouvons nous confier en la puissance de Dieu et non en la violence des hommes. Dieu est de notre côté ne signifie pas que Dieu va nous aider à combattre avec nos propres armes. Dieu n'agit pas par la force physique, mais par notre foi en lui. Par la foi, nous triompherons. On l'a chanté. C'est pas par nos forces, nos armes, nos chars. Non, par la foi, nous triompherons. Et je vous invite à lire Éphésiens 6, versets 10 à 16, qui parle des vraies armes du chrétien. Éphésiens 6, 10 à 16. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de vous, de votre taille, la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous pouvons croire qu'un jour, Dieu remportera la victoire finale sur le mal. Justice sera faite. La souffrance n'aura pas le dernier mot. Mais c'est Dieu qui remportera cette victoire. Oui, le mal sera vaincu, la mort sera vaincue. Et enfin, Dieu veut que tous les hommes de la terre fassent partie de son peuple. Le peuple de Dieu ne suit pas les frontières du monde politique. Il englobe des hommes et des femmes de partout dans le monde qui tous adorent le vrai Dieu. Combattre race contre race, pays contre pays, n'a aucun sens. Le peuple de Dieu ne suit pas les frontières. Et Dieu veut que tous les hommes de la terre fassent partie de son peuple. Et pour conclure, je vais vous lire quelques versets d'Ésaïe. Que je pense que celui qui a dit qu'il voulait accomplir la prophétie n'a pas forcément compris ce que Dieu voulait dire. Et il y a des très beaux versets dedans et j'espère qu'ils s'accompliront prochainement. Donc Ésaïe 2, versets 2 à 4. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leur épée pour en faire des socs de charrues et leur lance pour en faire des serpents. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire la guerre.